France Culture. Les nuits de France Culture.
Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat, Riesling, Gewürztraminer et Pinot Noir. Voilà les sept cépages principaux qui composent le vignoble alsacien, longtemps décrié à tort, mais reconnu aujourd'hui pour les qualités exceptionnelles de son vin. Mais l'Alsace ne se résume pas à ses vignes. Il y a aussi une riche culture gastronomique, qui dépasse la stéréotypique choucroute. Desserts, plats en sauce, charcuterie, mais aussi poissons et soupes, c'est une gastronomie complète qui s'offre à qui prend la peine, ou plutôt le plaisir, d'explorer l'insondable profondeur de cette culture du terroir. Ce numéro du Pays d'ici de Stéphane Delisgeorges s'installe à Colmar, pour une émission qui prend la forme d'une dégustation continue, sorte de festin par procuration entouré d'experts et d'expertes, faisant toujours bien attention d'accorder harmonieusement les mets et les vins. Les bons vivants et les œnologues y trouveront leur compte, mais attention, c'est une émission difficile à écouter avec le ventre vide et le gosier sec. Un festival de vins, de produits, d'histoires et de mots donc, réalisé par Yvon Croisier et diffusé pour la première fois le 9 décembre 1994 sur France Culture.
Bon, je pense qu'il est l'heure de prendre un petit apéritif.
Allez.
Vous trouvez pas ? Bon, la bonne vôtre, monsieur.
À la vôtre. Du pays d'ici, sur la route des vins, l'Alsace.
D'Alsace, gastronomie, on met un... Alsace, oui.
Alsace, la route des mets sur la route des vins.
Ça fait toujours plaisir quand on a le bouchon qui saute. C'est déjà le début de la dégustation.
Et voilà le Kuglof qui arrive, là.
Le Kuglof et les fameux Wurzel de la région.
Bonne santé. Nos vins sont merveilleux. On a une palette de cépages, vous voyez. Hein. Chacun avec sa typicité, ses caractères. Ça fait que on a un vin pour chaque mets, un vin pour chaque circonstance. Alors, le fruit du corps, vous voyez, une agréable acidité très aromatique. On en a, je veux dire, on peut refaire tout un repas au vin d'Alsace. Avec un muscat très aromatique, hein, en apéritif. Ou alors, sur un plat plus simple, on prend un sylvaner avec un petit saucisson, allez, hein, ou avec des huîtres aussi. Ensuite, tarte à l'oignon ou soufflé au fromage, tout ça avec un pinot blanc, hein, une quiche Lorraine, pinot blanc. Les riesling avec les poissons, et on a de superbes touquets avec des volailles. Volailles, rôties, pâtés de viande. Et alors, les Gewürztraminer, très floraux, voyons, la rose, le yais, c'est un peu poivré, vraiment des arômes envoûtants, évidemment avec le foie gras. Remarquez le taux qui va aussi avec le foie gras. Les deux vins, vous voyez, on leurs adeptes. Les uns préférant le toquet au fruité un peu plus neutre et les autres le Gewürz plus floral. Mais alors là, en vendange tardive avec un foie gras, c'est vraiment merveilleux et surtout, n'oublions pas, avec le fromage. Avec des fromages, vous voyez, gras, tel Munster, mais aussi Rebochon et Poisse. Un vieux gruyère, le Gewürztraminer, accompagne merveilleusement.
Tête de moine et vieille mimolette, bouillon de légumes en pot-au-feu de foie gras, pêche de rouget au fenouil et bordail, navet farci à la ratatouille minute, sorbet au lait d'amande, puis croustillant de pied et langue de porc au jus de viande, enfin Munster nature et ses galettes de cumin pour finir sur un dessert envoûtant aux épices chauds. Bonsoir Françoise Klein.
Bonsoir.
Vous arrivez de Saint-Hippolyte.
Tout à fait.
Et c'est le menu que vous avez proposé très exactement pour la Saint-Valentin de cette année 94.
Tout à fait. C'est en nous faisant, disons, des petits programmes Saint-Valentin chaque année. J'ai un ami restaurateur qui n'est pas d'ici d'ailleurs, mais qui est passionné par tout ce qui est arôme d'Alsace. Et nous faisons de petits mariages, déjà pour se faire plaisir à soi-même et pour essayer de faire participer nos clients et nos passionnés d'Alsace et leur faire découvrir d'autres arômes dont ils sont très friands.
Bon. Bonsoir Jean-Marie Klein.
Bonsoir.
Alors vous êtes tous les deux, en prenant l'accent de l'endroit, vous êtes vigneron œnologue.
Oui.
Tous les deux.
Oui.
Évidemment de Saint-Hippolyte. Et vous avez, vous aussi, le goût de soigner les vins et de les associer avec des mets choisis. Bonsoir Bernard Jantet.
Bonsoir.
Vous êtes ici pour comme représentant du syndicat des vignerons récoltants.
D'Alsace.
Il y a une sorte de pudeur des mots parce que, par exemple, en Champagne, on parle encore de récoltant manipulant. Ça vous plaît pas, hein?
Non, nous manipulants, nous plaît pas, puisque ça correspond pas, on dira, à la typicité de nos vins, puisque la manipulation qui consiste à tourner les bouteilles n'existe pas en Alsace. Sauf pour le crémant. Mais disons que ça reste quand même une production qui n'est pas essentielle pour le vignoble alsacien actuellement. Quoi.
Alors, on l'aura compris, aujourd'hui, bien sûr, on va se concentrer sur l'alliance de la gastronomie et de ce qui l'accompagne, de ce qui l'arrose. Juste un petit aphorisme, je n'en prends pas la responsabilité, puisque c'est une légende d'un dessin de Tony Ungerer, alsacien, bien sûr, et qui représentait une petite cigogne dont le bruit caractéristique est clac-clac quand elle sent sur les toits, et qui fonçait la tête la première dans un kouglof. Et la légende était la suivante. Alsacien, entend rien, voit rien, dit rien, mange bien. Alors je propose, avant de manger bien, avec vous Bernard Jantet, rapidement, pour ceux qui nous auraient mal suivis, comme contre-attrapage, de rappeler les 7 célèbres cépages des vins d'Alsace. Alors je vous aide, Chasselin. Gewürz Traminer, vous m'interrompez quand vous voulez.
Non, disons qu'on ne le met pas tout à fait dans le même sens. Chasselas, donc Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Tokay, Pinot Gris, Pinot Noir.
Alias Tokay, Pinot...
Muscat.
Oui.
Voilà, je crois que...
Il n'a rien oublié.
Pinot Noir, pardon.
Pinot Noir. Et le crémant, parce que jusqu'ici, on a slalomé avec ce crémant. Est-ce que, Françoise Klein, vous avez... un goût pour le crémant, vous pourriez l'associer tout de suite à quelque chose? On commence peut-être par la fin, là.
Et le crémant, moi, je l'aime bien, déjà en apéritif. Je pense que dans apéritif, il y a apair, il y a ouvrir. Alors j'aime bien, en apéritif, un vin qui ne me sature pas. Or, on a tendance, de temps en temps, à assister à des repas où on commence un petit peu par, entre guillemets, étouffe chrétien. Et malheureusement, ça perturbe un petit peu la suite des choses. Un crémant, dans la mesure où il n'a pas trop de sucre résiduel, mais en temps de douceur à l'arrière, vous émoustillez un petit peu, vous prépare le palais à la suite. Et la suite est souvent intéressante, c'est-à-dire l'entrée.
Alors juste un petit détail biographique, sans être indiscret. Vous seriez plutôt d'une région, Françoise Klein, où on dirait, tiens, on pourrait peut-être boire un petit rouge. Qu'est-ce que ce serait? Un petit rouge?
On boirait plutôt un petit blanc.
Ou un petit blanc?
Oui, un petit blanc. Et on démarrait très tôt matin, d'ailleurs.
Oui.
Oui, on avait tendance.
La Savoie, donc.
Oui, hein. Tout à fait.
Et c'est sur les bancs des cours d'œnologie que vous avez rencontré Jean-Marie Klein?
Non, ce sont plutôt sur les bancs de l'après-ski, vous voyez.
Ah bon? Au moment du vin chaud?
Oui, bien après.
Alors, est-ce que c'est une tradition? Parce qu'on voit, quand on se promène dans Colmar, qui prépare les fêtes de Noël, avec les marchés de Noël, on voit souvent une grande ardoise devant les excellents pâtissiers, où il y a marqué, ici, vin chaud, 12 francs. C'est une coutume, le vin chaud?
C'est une coutume, moi j'en avais déjà bien l'habitude dans ma région. Je trouve qu'on la retrouve en Alsace et c'est très bien. Je pense que c'est très, très lié, je pense, au marché de Noël en plus. C'est un petit peu comme ça que j'ai interprété. Et ça joue un petit peu sur les épices, sur les petites laines.
Et quand nous rentrons à rivière, quand tu es mort, je ne mange pas de mort.
Gelsi, vous devez choisir deux plats. Pour quelqu'un qui connaît mal ou qui connaît même pas la cuisine alsacienne, dans l'époque où on est allé, le mois de décembre, à la proximité de Noël, qu'est-ce que vous choisiriez de très significatif de la cuisine de votre région?
Un Bäckerhofer. Déjà, c'est ce qui est de saison.
Explication, traduction.
Ou une bonne choucroute royale, on peut dire, avec toute sa cochonaille, et ainsi de suite, qui s'accommode aussi bien avec un très bon Riesling ou avec la bière, comme quelqu'un au choix de la personne. Voilà. Ou même, disons, comme chez nous, un gratin de Nanterre, accompagner son schifala. Ça, c'est un plat où on mange quand il fait froid, qui aime beaucoup.
Schifala ?
Schifala, c'est de la palette de porc fumé. On l'accompagne avec une petite salade verte, le gratin de Nanterre. On peut leur faire goûter, il y a un foie gras, naturellement. Un oui. Foie gras. En plusieurs plats ou comment voulez-vous ?
À votre goût. Il faut les étonner, il faut...
On peut leur servir une matelote.
Oui. Une matelote.
Une matelote.
Explication de la matelote. Différents à la mode poissons, alsacienne.
Différents poissons de rivière. Accompagnés d'une sauce au Riesling avec des nouilles. Après, on peut leur servir un fromage, c'est-à-dire un Münster, de différentes façons. Moins affiné, plus affiné, cumin pour ceux qui en veulent ou pas. Et derrière, on peut leur servir, par exemple, un Kugelhopf glacé, pour rester alsacien.
Oui, une glace selon la forme du Kugelhopf, c'est ça?
Oui, aromatisée avec des raisins homards à l'intérieur. Servi soit avec un coulis de framboise ou autre chose. Alors la recette du Bäckerhofer, c'est-à-dire il y a 4 sortes de viande minimum. Vous avez du porc, vous avez du bœuf, vous avez de l'agneau et puis le cochon. Donc accompagné de tout ce qui agrémente, c'est-à-dire donc les pommes de terre qui sont coupées en lamelles très très fines. Certains mettent une julienne de légumes, c'est-à-dire poireaux et carottes, pour adoucir un peu. D'autres ne le font pas. Il faut bien le faire mouiller, bien sûr, dans son vin blanc. Et la cuisson au four mérite 3 heures, 4 heures, suivant la quantité. Sonntag.
À votre santé. Ça, c'était un écho sonore de repas dans un petit restaurant qui s'appelle le Caveau Saint-Jean et qui est à proximité de cette douane, cette ancienne douane si jolie du centre historique de Colmar. Est-ce que vous connaissez, Françoise Klein, ce livre de Irène de Fonberger avec des photographies de Christophe Meyer et qui vient de sortir, qui s'appelle L'Alsace à table, saveurs et couleurs d'une province gourmande?
Tout à fait, c'est un très joli ouvrage d'ailleurs avec des photos magnifiques de Christophe Meyer que je connais bien. Et ma foi, de quoi vous faire saliver, pour, surtout par ces petits frimas qui arrivent avec les Bäckerhofer, les choucroutes et toutes ces spécialités qui sont typiquement de chez nous.
Ouais, ça commence par une soupe, le potage au riz, voilà, de prononciation, non garantie, oui. S'il vous plaît, aidez-moi, Jean-Marie Klein. Le rifala.
Le riz, voilà. Ouais, ça vient du geste rive. C'est, je traduis, frotter, quand nos grands-mères faisaient ces rives-là, je vois encore ma grand-mère qui se frottait les mains, et puis comme des boulettes qui tombaient dans la soupe, enfin, ça faisait, ça donnait la pâte et la forme de ces pâtes qu'on utilise dans nos potages, dont le terme rivola soupe, ou...
Ouais.
Ce que vous avez dans ce livre.
Irène de Fonberger conseille d'ailleurs de faire cette recette avec des gosses parce qu'ils aiment bien jouer avec la pâte à modeler et de la pâte modeler.
Je comprends, oui. On jouait bien avec la pâte, pas avec la pâte à modeler, mais avec la pâte de la grand-mère.
C'est une région où on aime la soupe en Alsace.
Ah oui, oui. On sert la soupe à tout moment. Que ce soit au déjeuner, au dîner, bien sûr la consistance dépend de la saison. Les vendangeurs se souviennent bien de leur soupe de vendange, où dans le temps il y avait tout. Il y avait les saucisses, il suffisait de tirer dessus pour voir la longueur du chapelet. Il y avait des légumes, il y avait tout, absolument tout. Et tout ça était servi dans une grande bassine qu'on amenait sur une petite, je vais pas dire brouette, mais enfin c'était tout comme. On amenait ça dans les vignes et chacun avait son assiette et se servait là-dedans.
Est-ce que, comme dans beaucoup de régions viticoles, on a l'habitude, dans notre région, on appelle ça faire chabrot par exemple, c'est-à-dire de mettre une petite goutte de vin rouge dans la soupe? Est-ce que ça se fait ici, par exemple au moment des vendanges ou pas?
Enfin. Non. Une petite goutte de marc, peut-être, oui.
Ah, une goutte de marc.
Oui, c'est au goût de chacun, mais...
Le vin, pas tellement.
Je ne veux pas dire de vin, non, pas peut-être un peu plus fort, là.
Bon. On fait chabrot plus.
Oui, chabrot plus. Vous aimez la soupe, je suppose, Bernard Jontet?
Par obligation, oui.
Par obligation?
Oui, oui.
Mais ça s'allie bien aussi avec un petit verre de vin blanc sec, une petite soupe, un sylvanaire, après tout, allez, non?
Oh, pourquoi pas, je dirais que... Hein,
on va demander... On va parler sous l'autorité de Françoise Klein, là. Oui.
Ben une soupe, je trouve que ça réchauffe à tout moment. Il y a une région où on ne mangeait pas de soupe à midi. J'étais étonnée de manger des soupes à midi. Et finalement, c'est réellement utile en plus. Pas seulement pour réchauffer, mais c'est utile. Bon, je veux dire, ça rassemble un petit peu les gens au début d'un repas. Très utile pendant les vendanges, où je vois la plupart des vendangeurs qui viennent la première fois sont étonnés, une soupe à midi. Mais finalement, on s'aperçoit que ça fait le petit matelas qui va accueillir le reste. Éventuellement, je vois dans les vignes, on attend cette soupe parce qu'on se demande quelle couleur elle va avoir. C'est aussi un peu l'angoisse chaque fois.
Vous retrouvez votre accent doucement hein, de là-bas. C'est bien. Consommer au quenelle de foie.
Ah,
ça,
oui.
Ça fait très envie aussi. C'est aussi, là, c'est vraiment marqué Alsace, non?
Tout à fait.
Vous en faites parfois?
Ma belle-mère l'a fait très bien. Alors, je lui ai laissé le soin de la faire et elle en fait de très, très bonne. C'est vrai qu'il faut avoir un tour de main. Et puis, comme ces recettes se transmettent un petit peu suivant les ingrédients utilisés, les épices aussi à mettre dedans. Il y en a quelques-unes qui sont plus ou moins épicées que d'autres sont plus fades, alors ça dépend. Et puis, se consommer, le bouillon. Alors, le bouillon, tout dépend ce qu'on aura mis dedans, quelle sorte de viande, etc. Mais je trouve qu'elle l'a fait très bien, donc je lui fais confiance jusqu'au bout.
Il y a un goût des salades aussi, ici?
Oui, beaucoup. Des salades avec, avec des cervelas, avec ces salades vignerons qu'on appelle à base de cervelas, oignons et fromage, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs tellement dans d'autres coins. Bon, les salades, tout ce qui est salade de choux également, hein, choux crus, les salades de choucroute qui sont très bonnes, qu'on découvre actuellement, où finalement la choucroute crue, simplement blanchie et traitée en salade, est quelque chose de très très digeste.
Oui.
Et vous avez cette choucroute, d'ailleurs, on parle de la base, mais en fait, on utilisait même à un moment donné, moi je sais que certaines personnes font des cures de jus de choucroute. C'est une façon de se nettoyer très bien pour pouvoir remanger après.
Des cures de choucroute. Ouais. Est-ce qu'on mange aussi beaucoup de pommes de terre? Parce que c'est une région du Nord, c'est une région septentrionale. Est-ce qu'on accommode? Il y a des quenelles, par exemple. Mm-hmm. Il y a la description de quenelles dans le livre d'Irène de Fontverger.
Quenelles de pommes de terre. Moi, je ne connais pas tellement la quenelle pomme de terre. Est-ce qu'on... Non, je ne vois pas. Je pense, ce qui m'avait étonné, moi, quand j'étais arrivée ici, parce qu'en fait, on a un œil neuf quand on vient d'ailleurs, c'est qu'on utilisait beaucoup plus en accompagnement tout ce qui est sauce, que ce soit gibier en sauce, ou les poissons en sauce, ou les viandes en sauce, beaucoup de confections à base de pâte à nouilles.
Oui.
Et qu'on ne rencontre pas dans d'autres régions, par exemple l'autoroute du Rhin, où ce sera plutôt la pomme de terre, effectivement. La quenelle de pomme de terre, ça va être une petite variante, mais enfin, je ne sais pas.
Vous voyez, hein, beaucoup de choses à apprendre dans cet ouvrage.
Tous les jours et constamment.
Alors, Bekauf, comment on prononce ça?
Bekauf.
Bekauf, là, pardon, mille excuses. Ça a l'air intéressant, ça aussi. C'est bon, on a goûté. Hein.
C'est gentil quand on est plusieurs personnes ensemble. Ça rassemble, en plus. Et puis, il y a ce couvercle qui s'ouvre tout d'un coup sur une table.
Et qu'est-ce qu'on trouve sous le couvercle?
Les odeurs, d'abord.
Et quelle viande?
Alors, trois sortes de viande.
Allons-y. Les trois sortes de viande.
Alors, les trois sortes de viande, on peut mettre... tiens, on va faire travailler les messieurs. Trois sortes de viande, s'il vous plaît.
Allez. Bernard Jontet.
Je sais qu'il y a du porc.
Bon. Jean-Marie Klein. On a une seconde, vite.
Il y a dit du porc.
Du veau.
Du veau.
Et
l'agneau qui est un
l'agneau, important. Évidemment. L'agneau.
Jean-Pierre Oberlin, le premier, il est signé de Francis Blanche, il est venu ici, il a écrit sur le livre d'or, Quand on rentre ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on est à l'auberge de Lille. Alors, gastronomie et vin d'Alsace.
Oui.
Est-ce qu'on peut reprendre le menu que vous avez concocté ce soir pour nous? Alliance des mets et des vins.
Alors, je vais vous donner mon neveu.
Alors, on va appeler Marc.
Marc. Voilà. Alors, tu fais le commentaire du mets de ce soir.
Parce que la consigne était vin d'Alsace et mets d'Alsace.
Oui, c'était ça. Alors, bon, le premier plat que vous avez eu, c'était une petite salade de tripes au foie d'oie, qui est un plat un peu inspiré d'un plat très rustique, inspiré du terroir alsacien. Après, vous avez eu un petit ragoût de grenouille à la choucroute avec un jus de choucroute. Et ensuite, vous avez eu des chevreuils avec les spätzle à l'alsacienne, qui est un plat vraiment typiquement alsacien.
Il y avait un peu de cumin avec le...
Le chou.
Oui.
Oui, un peu de cumin et de lard fumé.
Un peu cristallisé.
Oui, c'était du lard sur le dessus. C'était du lard complètement confit, cristallisé, que vous aviez sur le dessus du chou.
Ça, on peut considérer que c'est une note vers l'est.
On appelle ça du cumin, mais effectivement, ce que l'Alsacien appelle cumin est du carvi.
Alors l'Alsacien, on ne sait pas s'il est français, s'il est allemand, de culture française, de culture germanique. Après tout, il est Alsacien.
Ouais.
Il
voilà,
est
je me sens, on a deux cultures, je me sens, je suis fier de cette double culture.
Alors, qu'est-ce que ça a comme écho dans la cuisine? Est-ce que c'est une cuisine qui est de l'Europe continentale? On parle du cumin, il y a des épices, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'Europe centrale.
Il y a l'influence de l'Autriche avec toutes ces pâtisseries. Je me rappelle ma grand-mère qui n'avait pas d'électricité. Eh bien, avait toujours une Linzertorte, la tarte de Linz. Oui. Et ça, ça vient encore des Autrichiens. Ça s'est transmis de mère en fille. Et il y a indiscutablement l'apport de l'Autriche avec leur belle pâtisserie. Et puis l'affinement de la cuisine française avec Escoffier et tout ça. Mais ça, c'est venu de la France.
Est-ce que vous avez observé le dessert que j'ai mangé avec ses pommes?
Vous aviez de la poire.
Oui, mais de la poire, pardon.
Ah oui, c'est le vin.
Et oui,
c'est les vins.
Les vins. Et puis comment est-ce que vous appelez ça? Quel est son nom à ce dessert?
Un croustillant en poire, voilà. Avec une glace à la chicorée confite.
Bon. Alors, là, c'est très marqué, Europe de l'Est, j'avais l'impression, pour moi.
Oui, peut-être, bon, la sauce caleuse, la pâte ressemblait à une pâte à strudel. Et très fine, montée en pyramide. Et puis à l'intérieur, vous aviez des poires caramélisées avec une sauce au caramel et une glace à la chicorée confite.
Si on est à proximité de Noël maintenant,
oui.
Si il fallait que, comme ça, de chic, rapidement, vous composiez un menu de Noël qui soit franchement alsacien, peut-être pas totalement traditionnel.
Il y aurait d'abord le foie gras.
Bon.
Après, je pense, une façon de servir l'oie un peu différente, ce serait de la faire en pot-au-feu. Un grand pot-au-feu d'oie avec tous les légumes. Et puis ensuite, un dessert, on pourrait faire une charlotte au pain d'épices.
Et tu peux ajouter entre les deux, si tu veux,
un brochet ou un cendre cuit au Riesling avec juste quelques pâtes.
Vous avez des souvenirs précis de ces repas de Noël de votre enfance, Jean-Pierre Berlin?
Ah oui, moi c'est l'oie. J'ai la tata, j'ai la tante qui nous a élevés et on se réjouissait comment pour manger l'oie à Noël. Et moi j'adorais la peau croustillante. Alors ils m'ont toujours donné la peau croustillante. Je bave encore maintenant.
Et les gâteaux?
Ah, les gâteaux, oulala, c'est les gâteaux, c'est merveilleux. Ah ben, ou encore l'influence de l'Autriche, vous voyez. Et germanique, qui savait beaucoup, les Bredala, comme on les appelle.
On dit Alsace en français, on dit Elsass en allemand, dans l'étymologie.
Elsass, oui.
Ça vient
et en alsacien, Elsass. Et ça vient tout simplement de la rivière Ill, qui est parallèle au Rhin et qui draine tous les ruisseaux venant des Vosges. Et Elsass, on ne dit pas Ilsass, comme c'est écrit en allemand, ou maintenant en français, Ilhausen. On dit Ilfurt, on ne dit pas Ilfurt. On dit Elkirch, Elhisa. Donc, E-L, c'est la rivière Ill, et qui était assise le long de l'île.
et par contraction, Elsass devenait Alsace.
C'est donc cette rivière-là qui a donné le nom à cette région.
Oui, qui a donné le nom à l'Alsace. Et qui va du sud de la frontière suisse jusqu'au nord à 30-40 km de Strasbourg et qui se jette dans le Rhin.
Eh bien, on aura compris qu'on se prive de rien puisque nous étions à l'auberge de Lille, chez les Héberlins, auberge de Lille, Cise, dans la petite ville ou le village de... Je vous demande de m'aider, Jean-Marie Klein, parce que je vais encore mal le prononcer, Jean-Marie Klein, s'il vous plaît.
Effectivement, allez, oui, allez. Je le sens venir. Élisre. Et bon, je pense que ce petit village qui est sur les grands livres de gastronomie mériterait peut-être aussi une déviation de la route du vin par ici, parce que vous savez que dans le temps, je vous racontais une petite histoire, dans le temps, c'est de là que partaient les vins de la région de Ribeauvillé. On les embarquait sur les barques plates direction Strasbourg, et de là ils partaient un peu plus vers des pays nordiques. Donc c'est pas un hasard que l'auberge se trouve là, parce que il y avait les vins qui passaient là, il y avait les poissons de toute variété qui étaient dans la rivière, sans parler de la forêt d'Ille qui était très giboyeuse. Hein. Oui. Il y a encore le dain de l'île.
Et jusqu'au 18e, il y avait 1500 pêcheurs professionnels qui travaillaient, oui, à cet endroit, qui, oui, pêchaient. Ils avaient des pêches formidables, puisque à l'époque, je vous le rappelle rapidement, et c'est assez étonnant, comme dans le Rhin d'ailleurs, on trouvait du saumon, de la lose, de la lamproie, du brochet, de la sangle, de l'anguille, et jusqu'en 1850, on pouvait pêcher l'esturgeon. Ça fait rêver, Françoise Klein, ça, non?
Ça fait rêver, oui, parce que maintenant...
Pollution
Oui, malheureusement, ce sont des poissons, ce sont des choses qu'on ne voit plus, on ne verra peut-être plus, oui, d'ailleurs. C'est un petit peu dommage, quoi, et comme quoi un équilibre est très, très précaire, très fragile, hein.
Alors, première partie à nouveau de notre rituel, on le fait de plus en plus tôt d'ailleurs dans la dégustation, je vais demander, comme tous les jours, à Daniel Jung d'ouvrir une bouteille, voilà. Et alors ça c'est une bouteille, Françoise Klein, que vous avez choisie puisque vous avez aussi apporté avec votre vin un plat de charcuterie alsacienne.
Tout à fait, ma foi, on s'est dit pourquoi ne pas démarrer cette soirée par un plat, disons qu'on verrait d'ailleurs dans les Winstuhl par chez nous. Mm-hmm. C'est un plateau de charcuterie, bon, qui vient de chez mon boucher d'ailleurs, qui l'a préparé et qui rassemble un petit peu des plaisirs pour accompagner la discussion, je dirais, ou un préambule pour un repas.
Bernard Gentil, vous pouvez le goûter, hein, on va vous demander votre avis. Le représentant du syndicat des vignerons récoltants. Alors, est-ce qu'on peut savoir votre sentiment? Le nez d'abord. Voilà, tout le monde goûte. Religieusement.
Toujours dans le silence.
Oui.
Bon, c'est un chasselas.
Bon.
Donc c'est quand même un cépage. Pardon?
Oui.
Donc c'est un cépage qu'on trouve... en grande de quantité, donc en Alsace, hein, c'est quand même un peu une spécificité de chez Klein. C'est un vin qui est agréable à boire parce qu'il est léger, donc avec pour accompagner un repas et un plat de charcuterie, ça va très très bien.
Alors, les charcuteries, petite description, Françoise Klein.
Alors, petite description, mais vous avez, ma foi, des terrines que l'on propose en Alsace, des tas d'assortiments de charcuterie, ce qu'on appelle chez nous la charcuterie mélange. Je ne pourrais pas vous décrire exactement, parce que je ne suis pas moi-même dans la spécificité. Et vous avez, par exemple, une saucisse que l'on rencontre chez nous, qui est la saucisse de bière, qu'on vous vend en petit, genre, un petit ballon. Oui. Moi, que j'utilise d'ailleurs beaucoup quand je vais dans ma région, ce sont des genres de saucisses qu'on offre. Pour le plaisir, et ma foi, c'est toujours bien reçu, parce que déjà la forme est bien sympathique, toute rondouillette comme ça, ça vous met un petit peu en appétit, puis ça vous donne plus complexe pour la suite d'ailleurs. Et puis ces tas de... vous avez beaucoup de charcuterie en croûte d'ailleurs, hein. Alors là, vous avez une spécialité en croûte froide, mais vous avez beaucoup de présentations aussi en croûte chaude. Alors là, vous avez, ma foi, de quoi faire. Disons, ça accompagne très bien. Vous prenez ces tranches, d'ailleurs, de charcuterie entre vos mains, vous les pliez en quatre et vous croquez ça en même temps qu'un chasselas qui, lui aussi, n'a aucune prétention. C'est pour un plaisir immédiat, c'est pour un plaisir du moment. Et puis ça vous ouvre un petit peu le bec, comme on peut dire, et vous continuez pour les rêves ultérieurs.
Vous aviez déjà ce goût de la gastronomie, de la bonne cuisine, à partir du moment où vous avez commencé à vous intéresser au vin, ça s'est renforcé. Dans quelle relation fonctionne et votre métier, votre spécialité et votre hobby?
Ben disons que l'œnologie, je l'ai rencontré par hasard. La gourmandise et la gastronomie, ça doit être un gène qui est très, très, très profondément en moi. Et j'ai découvert l'Alsace par hasard. Je ne pensais pas y rester, mais j'ai découvert des gens encore plus gourmands que moi. Ça m'a interpellée quelque part et j'y suis restée.
Comment on dit, en Alsace. Bon. Jean-Marie Klein, est-ce qu'il y a une tradition au moment des vendanges? Est-ce qu'il y a des plats particuliers? Est-ce que... quand on réunit une équipe, il faut la nourrir
oui,
quand même.
Oui.
Vous avez des grosses équipes.
Oui, vous savez, dans le temps, on était gourmands, mais peut-être les vendangeurs étaient moins exigeants qu'actuellement. Bon, ça changeait quand même de la barquette qui vient du traiteur et ce qu'on trouve souvent aux vendanges actuellement. Mais bon, le rythme a changé, les habitudes ont changé, puis il y a aussi bon le style de travail qui est plus prenant pour le vigneron. Mais en ce qui concerne le repas de vendange,
alors
c'était, comme je disais tout à l'heure, la saucisse. Bon, je vais pas dire la vieille saucisse, mais il y avait le lard, il y avait le Munster, évidemment. C'était tout simple, tout simple. Et la bonne miche là, qui suivait, et chacun s'en coupait une tranche au passage. Et gare au dernier, parce que le dernier n'est plus que le fond de la gamelle.
Toujours à la maison des têtes, cette maison toute sculptée, dans ces rues de Colmar, aujourd'hui pluvieux, c'est le premier jour où il y a une pluie, alors que c'est la ville qui a le plus bas taux de pluviométrie de France, et à nouveau dans cette maison des têtes, devant un grand plat de charcuterie. Gamin Anthony, comment s'appelle le village où on est ?
Vieux
Ferrette. Il y a juste une montagne, vous habitez d'ailleurs, rue de la Montagne.
C'est ça,
c'est
oui.
C'est ici que vous êtes installé.
Oui.
Et vous êtes maître fromager.
C'est ça.
Vous êtes né ici ?
Je suis né dans cette maison. Mes parents étaient des paysans. Et mon grand-père avait un train d'agriculture. Mon père l'a continué. Et moi, quand j'ai quitté l'école, donc, je suis allé travailler à l'usine comme tout fils de paysan. Il fallait aller gagner des sous. Et après mon service militaire, il y a un épicier qui passait ici dans le village qui m'a dit « Tiens, si tu n'as pas de travail, tu peux venir travailler chez moi. » Et au bout de 6 ans, il voulait me vendre son affaire parce qu'il voulait faire quelque chose d'autre. Et j'ai commencé pour moi donc en 71, en faisant des tournées avec la mercerie, des chaussures, des légumes, des soutiens-gorge... des fruits, tout ce qui était vendable de village en village. Et en 79, j'ai eu le privilège de connaître, de rencontrer Monsieur Antrouet, maître fromager à Paris, qui s'est pris d'une amitié filiale pour moi. Et il m'a dit, il faut que tu changes totalement de métier, il faut que tu apprennes quelque chose de correct. Et c'est là aussi, donc, qu'il m'a fait entrer dans le monde merveilleux, donc des fromagers affineurs. Comme ça, c'est vrai, ça a été... Moi, je suis rentré dans le monde du fromage, comme on rentre en religion, ou comme on se marie. On ne sait pas ce qui vous attend, parce que tout est tellement neuf, tout est tellement nouveau qu'on suit le chemin. Et normalement, si on aurait demandé à un technicien des chambres de commerce ou de cela de faire ça, ils auraient dit « Ah non, monsieur, jamais, dans un village de 500 habitants. Où est-ce que vous voulez chercher vos clients ?» Parce qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas une clientèle potentielle. Et pour le moment, donc, les gens viennent, ils font tous entre 100, 500 000 km pour acheter le fromage, ici.
Il faut dire le nom de votre maison, Bernard Anthony.
Sunkoy Khesral, c'est-à-dire le caveau du fromage.
Bernard Anthony, on a goûté différents fromages. Il y avait des fromages de Savoie, des fromages de la région lyonnaise, des fromages de l'ouest de la France, un fromage corse. Et bien sûr, vous avez cherché l'alliance entre ces fromages qui viennent de toute la France, avec différents vins d'Alsace, évidemment.
Oui.
Alors, on a commencé par un blanc qui était d'où ?
Un pinot blanc, donc on a fait le mariage avec des chèvres, naturellement, chèvres et brebis, qui c'est un vin très très fin, très élégant, pas trop fort, donc il se marie bien justement avec la très belle diversité des fromages de chèvre et de brebis. Ça permet de bien les accompagner sans les détruire. Ça permet aussi de découvrir toutes les subtilités de chaque fromage, parce que tous les autres fromages qu'on goûte en général, ce qui est pasteurisé, thermisé, stérilisé, c'est tu peux goûter 20 sortes, ils sont tous pareils. Aucun n'a un goût spécial, à part si on met des aromates ou des choses spécifiques. Tandis que là, dans les chèvres et dans les brebis, chacun a sa personnalité. Comme chaque fromagère qui me les envoie, comme chaque personne qui vient les acheter ici, chacun est une personne et une personnalité.
Alors ensuite, Bernard Anthony, il y a eu un pinot noir avec une origine, c'est à Turckheim, et c'est exactement Herrenweg.
Le Herrenweg, le chemin des seigneurs. Ça s'appelle le chemin des seigneurs de Turckheim.
Alors vous avez décidé de le mettre avec quel fromage cette fois?
Alors là, celui-là, je l'ai avec un très beau Saint-Nectaire, donc des fromages beaucoup plus puissants, beaucoup plus virils, comme on pourrait dire. J'ai mis un très beau prix de, un prix de Melun, que je trouve pour le moment supérieur au prix de Meaux. J'ai aussi mis une spécialité lyonnaise, un Saint-Marcellin bien fait à cœur. Là aussi, dans le temps, on avait aussi des très beaux Saint-Marcellins, mais les Saint-Marcellins se sont aussi un peu banalisés. On trouvait des Saint-Marcellins toute l'année, toujours bien coulants. Mais pour faire ça, naturellement, il fallait aussi des techniques très très modernes. Nous, on avait quelqu'un qui les faisait d'une façon exceptionnelle à Mions, mais pour différentes raisons économiques et tout ça, ils ont dû arrêter. Ils ont écouté les services extérieurs, un peu de vétérinaires et tout cela. Ils ont transformé toutes leurs exploitations dans les normes soi-disant européennes. Et après, au bout de quelques temps, ils devaient arrêter parce que les fromages n'étaient plus mangeables.
Et avec ce pinot noir, qui est un vin rouge profond, excellent, il y avait aussi deux fromages de Savoie.
Deux grands fromages de Savoie, donc le Beaufort. Et on a aussi marié avec ça le comté, oui. Le très bon comté aussi.
Hein. Et le reblochon.
Et le reblochon divin de Chaussette Bouvard, qui est une charmante fromagère qui habite au Grand Bournant. C'est des reblochons aussi spécialement affinés, qui sont vraiment d'une façon exceptionnelle, bien faits à cœur, avec beaucoup de goût aussi, et qui est naturellement connu fermier.
Et puis troisième manège de fromage,
oui.
Cette fois accompagné d'un Alsace 89 avec une étiquette dont vous nous avez dit, Bernard Anthony, qu'elle avait été refusée aux États-Unis pour pornographie.
Pour pornographie, oui.
Alors qu'on voit une dame, une silhouette noire, très oui. élégante, avec un soleil jaune en dessous.
Oui, un petit sein qui dépasse.
Bon, il y a un petit sein et puis elle a... Et puis on...
Une allure très féminine.
Oui, et puis la cambrure de ses reins.
Oui.
Et elle illustre donc l'étiquette d'un Krippgewürztraminer.
Oui.
Et qui vient d'où?
De Andlau, charmant village dans le Bas-Rhin.
Alors c'est un 89, c'est un vendange tardive.
Oui.
On est en train de le goûter.
Oui.
Il a plein de douceur. Et cette fois, est-ce qu'on va l'associer avec quel fromage?
Avec ce qu'il y a en Alsace, naturellement, c'est un très beau master. Un master bien fait, à cœur, qui est fait dans les fermes et qui ensuite, encore pendant, entre 8 et 12 semaines, il est encore affiné sur des planches de bois, bien sûr. Il est lavé à l'eau salée et soigné avec amour par des fromagères.
Est-ce que vous pourriez m'apprendre à dire les fromages étaient très bons en Alsace? Ah, les fromages étaient très bons aujourd'hui.
Tirez, c'est une wunderbar gseheda.
Bon, je le répéterai pas.
D'accord.
Je vous demanderai pas, Jean-Marie Klein, de me dire « Ah, la charcuterie est très bonne en alsacien ». Non, allez, je vous le demande pas.
Il y a tort. C'est pas de mon ordre.
Il l'a dit quand même. Le foie gras, invention alsacienne, à Strasbourg, 1780, un monsieur Jean-Pierre Clause, cuisinier, qui venait de Lorraine. Tiens, comme vous d'ailleurs... Bernard Jantet, vous avez passé la ligne bleue des Vosges, vous êtes né de l'autre côté.
Eh oui, je suis passé de l'autre côté. Donc, ça fait quand même maintenant pas loin de 30 ans que je suis en Alsace et je crois que j'aurais du mal à retourner.
Vous ne repasserez pas le.
Non, non, l'Alsace est une région tellement charmante.
Alors donc, ce monsieur Jean-Pierre Clause, cuisinier donc de son état, il était cuisinier du maréchal de Contade, gouverneur militaire de l'Alsace, de 1762 pardon, à 1788. Françoise Klein, vous avez un goût particulier avec le foie gras pour l'accompagner ou...
Mais l'accompagner, il faut d'une part un vin. Bon, tout dépend déjà si on est sur foie gras d'oie, sur foie gras de canard. Moi, j'ai une prédilection souvent sur le toquet parce que je trouve que le toquet a une intelligence de fond qui fait qu'il ne va pas étouffer le plat qu'on lui met avec. Bon, un Gewürztraminer, on pourra effectivement bien le placer avec un foie gras, mais on a des Gewürztraminer qui sont tellement opulents de temps en temps en arôme, en fond, parce que vous avez de temps en temps des vendanges tardives ou des grains nobles qui, ma foi, ont un fond qui vous habite profondément, à tel point que je dirais, je les destinerais ceci à une soirée carrément foie gras avec 3-4 foie gras faits de façon différente. Vous passez la soirée dessus, vous êtes assis dans un fauteuil très très profond, vous laissez la nuit courir et vous n'avez plus que le lit après. Ça, c'est le Gewürz. Maintenant, pour le toquet, je pense qu'il sait s'adapter. Il ne va pas vous phagocyter tous vos arômes en début de repas. Et quelque part, il va suivre un plat intelligemment sans jamais le dépasser. C'est ça.
À vous écouter, Françoise Klein, je réalise une chose qui se confirme tout au long de notre pérégrination dans les vignobles de France. C'est que les femmes parlent peut-être mieux encore que les hommes du vin. Et en plus, alors, si elles peuvent allier les mets.
Peut-être sont-elles plus gourmandes ou est-ce qu'on sent ça? Je ne sais pas. Enfin, je ne pense pas que ça soit tellement sexiste, la gourmandise, ou au niveau de la présentation. Ou peut-être qu'on vit peut-être plus profond. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'on a, on a ce nez des cuisines ou des senteurs. Des senteurs d'enfance, peut-être, sont plus présentes. Je ne sais pas. Je ne suis pas posé la question, mais enfin, je le vis très bien, ça va. Hein.
Bernard Jantet, vous constatez quand même certainement que de plus en plus de femmes vignerons ont des responsabilités. Nous avons visité en début de semaine Cécile Bernard, qui est le premier président d'un syndicat local. Est-ce que c'est un signe sociologique d'une modification de la profession?
Je crois que c'est une avancée que l'on rencontre dans beaucoup de métiers aussi, mais que maintenant il n'existe plus cette ségrégation qu'il y avait encore au début que j'étais au syndicat, il y a ne serait-ce que 10-15 ans, où il y avait les femmes d'un côté et les hommes qui s'occupaient, je dirais, de la politique générale viticole. Or maintenant, je dirais, c'est un tout. Et la femme a sa place à l'égal de l'homme au niveau de toutes nos instances professionnelles.
Alors on a écouté le maître fromager, qui est d'une jolie région d'ailleurs, qui est du Sango.
Sungo.
Sungo, pardon.
Vraiment, Sungo.
Recyclage. C'est déjà, bien sûr c'est l'Alsace, mais c'est presque frontalier. Hein, c'est une région singulière, cette région.
C'est une région qui est très riche, enfin en potentiel. Mais, vous savez, avec toutes les directives de Bruxelles, on ne va pas rentrer dans les détails, des régions pareilles, on les a un peu étouffées. Ah. Alors, une région riche, il y a l'élevage, il y a les arbres fruitiers, il y a beaucoup de choses. Hein. En gastronomie, vous voyez, il y a des restaurants très intéressants aussi, qui vous présentent encore toutes ces spécialités, mais... on a du mal actuellement à faire survivre toutes ces spécialités.
C'est une région qui est frontière parce qu'elle est proche de la Lorraine, elle est proche de la Suisse, elle est proche... elle est un peu carrefour aussi. Alors, retour au fromage, encore, allez. Alors, vous proposez, vous, Françoise Klein, avec un Saint-Florentin, avec un Briat-Savarin, avec un Saint-Marcellin et avec un Chaourse, carrément un Pinot Blanc, 1986, et vous... aller plus loin dans la précision, brioche parisienne qui l'accompagne.
Oui, alors ça, ces repas fromages qu'on organise, c'est une lente maturation entre une amie qui
est... Trois partenaires, oui.
Oui, trois partenaires. Une amie qui est affineuse de fromage, qui est sur Colmar, et une autre amie qui est maître pâtissière, et actuellement, on rajoute même des aigres doux. Alors, c'est vrai qu'on déguste fort, et pour élaborer un menu pareil, on passe énormément de temps, parce qu'on doit axer l'accord sur le fromage. C'est le fromage qui devient le maître de l'accord. Et vous devez trouver le vin qui va s'accompagner. Et brioche parisienne sur ces fromages, pourquoi? Parce qu'ils sont un peu gras et un peu tendres. Oui. Donc il faut accompagner avec quelque chose d'un petit peu gras, je dirais.
Crottin de Chavignol avec un toque épinot gris et un pain à l'anis.
Ah oui, à l'anis, c'est aux céréales. Mais ça, c'est
exotique.
C'est ma copine Christine qui vous fait ça. Mais c'est vraiment adapté. Et il faut que les fromages soient déjà bien affinés, soient en belle préparation. Et on fait, par exemple, une assiette avec trois sortes de chèvres d'affinage différents. On peut mettre un bourbillon aussi, pourquoi pas. Et alors là, on fait une petite salade. Alors là, c'est avec la complicité d'un copain restaurateur qui se nomme Brisac. Une salade à base de... On prend de la fleur de thym qu'on concasse avec du gros sel, lié avec une très belle huile d'olive. Et on mêle tout ça avec un mélange de salade, tout sauf de la Lollorossa ou de la laitue. Et vous placez avec, bon, ce pain... à l'anis et aux céréales, anis pas cumin. Et vous placez un toquet, mais qui soit sec, il ne faut pas qu'il y ait un pet de sucre restant. Et vous apercevez que très finement, dans le toquet, vous découvrez un peu d'anis, et vous découvrez un peu de thym. C'est...
Un changement de décor, samedi dernier, nous l'avons dit, nous étions au repas des œnologues. Et parmi eux, il y avait donc les œnologues et les œnophiles. Et des personnalités, bien sûr, de cette région, en particulier des représentants et de la magistrature et du barreau. Alors, pour la magistrature, c'était le procureur Pascal Schulz. Et pour le barreau, c'était maître Anne Wintersheim. À cette occasion, bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de leur lancer un défi.
Quand on est magistrat, on lutte contre l'absorption d'une quantité de vin. Mais aucune loi n'interdit à quiconque d'absorber des vins de qualité.
En petite quantité.
En petite quantité, tout au moins en quantité raisonnable et en dessous des seuils fixés par le législateur.
Oui, mais ça, c'est pas la raison pour laquelle vous...
Non. Il va de soi qu'en Alsace, il y a une tradition... Il y a une tradition et une culture de la bonne chère. Et la bonne chère ne peut se concevoir qu'accompagnée de bons vins. L'Alsace est suffisamment riche, tant en ce qui concerne ses mets, et qui lui sont spécifiques, qu'en ce qui concerne la variété et la richesse de ses vins. Et ceci est une évasion à la fois non seulement pour le palais, mais aussi pour l'esprit.
Alors pour ma part, j'essayerai toujours de faire la joie de mes amis en mariant nos vins avec des mets particuliers. Si nous voulons en revenir à notre fameux rouge d'Alsace, je précise que nous pouvons l'accommoder non seulement avec des viandes rouges, avec un filet ou un tourne-dos, mais nous pouvons aussi penser gibier. Car il est corsé. Il est corsé, et en ce sens, je le vois parfaitement, avec un marcassin, avec une perdrix, avec du faisan. Et vous pouvez également ajouter ces vins avec un champignon. Et je pense très précisément à la girolle, qui accommode très souvent nos plats de venaison. Eh bien, un pinot vinifié en rouge vous donnera quelque chose d'extraordinaire, un plat d'une délicatesse que vous ne soupçonnez même pas. Et j'avais eu l'occasion d'en présenter un, et on m'a dit, étant avocat, tu dois savoir poétiser. Alors j'ai pensé à la couronne de Charlemagne, ou peut-être à la couronne du roi des Alamans, qui est enfouie quelque part du côté d'une vieille abbaye, au pied précisément du mont Saint-Odile. Et je parlais de ces grenats et de ces rubis, et de ces rubis qui étaient aussi des spinels qui ornaient ces couronnes et qui se retrouvent dans les lueurs qui caractérisent notre rouge.
Alors avant qu'on goûte le Gewürztraminer, je vais faire quelque chose qui va être un exercice tout à fait rhétorique et comme une petite provocation. Les gens qui ne sont pas d'Alsace, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas venus ici, qui n'ont pas eu l'attention pour les vins de cette région, pourraient avoir ce rôle de, on va dire, de procureur, après tout. Alors je vais prendre ce rôle, moi, un instant, et puis après je vais essayer d'écouter votre éloquence. Alors les vins d'Alsace se caractérisent comme des blancs, qui se ressemblent presque un petit peu tous. Peut-être que le Gewürztraminer est un peu liquoreux, et puis... ceux qui sont les plus secs, après tout, on prend le risque toujours d'avoir mal à la tête le lendemain parce qu'on pourrait supposer qu'il y aurait un peu de soufre. Bref, certains disent « Ah, les vins d'Alsace, légers, et ils donnent mal à la tête le lendemain. » Alors, à vous de jouer.
Alors, je ne céderai surtout pas à la provocation, ni à des idées reçues je ne sais où, mais qui procèdent peut-être... du mépris qu'ont eu autrefois un certain nombre de viticulteurs du consommateur. Aujourd'hui, les règles sont tout à fait différentes. Là, on est en perpétuelle recherche de qualité. Et la quantité traduit toujours une mauvaise qualité. La qualité s'obtient, et chacun le sait, par des vignes saines, parfaitement entretenues, dans le terrain le plus approprié, et ensuite une vinification intelligente, qui ne procède en rien de la chimie, mais de l'art de l'homme. Dire que tous les vins d'Alsace se ressemblent, c'est faux, car la panoplie est si vaste entre les vins secs que sont le Pinot ou le Riesling et les plus fruités que sont les Tokay et plus encore les Gewürztraminer. Et ne parlons pas des cépages locaux qui procèdent d'une culture dans chaque village qui, je ne citerai que le Côte des Amandiers de Mittelwier, où sans être subjectif, on sent l'amande. Le Pfirsichberg, on sent la pêche. Et ainsi de suite. Ceci veut dire que le viticulteur a réussi tout simplement son œuvre, c'est de faire de cette nature qui est généreuse, après des soins intenses, appropriés et intelligents, des vins variés, de qualité, et où toute notion de souffrage, cause essentielle des maux de tête, est totalement bannie.
À vos arguments maintenant, maître Wittersheim.
Bien, monsieur le procureur, vous avez tout dit, en fait. Vous avez fait le tour de la question, bravo. J'ajouterai simplement que il faut aussi rapprocher cette éventail de vins de la façon dont on doit les boire. On ne doit pas les boire seuls. On doit les boire d'abord entre amis et on doit les boire accompagnés des mets qui conviennent. Je ne reviendrai pas sur toutes les bonnes recettes alsaciennes que nous pouvons déguster chez nos bons traiteurs, mais j'en terminerai avec ces vendanges tardives et ces sélections de grains nobles qui, elles, ne se boivent toujours pas seules mais entre amis, mais qui se boivent sans aucun accompagnement. Cela est tout à fait inutile, car c'est la part du rêve que vous avez dans votre verre. Et nous avons une habitude, quand nous faisons nos dégustations dans une certaine cave réputée, je vais parler de l'INRA de Colmar, nous faisons passer ces meilleurs vins dans un grand verre et nous faisons passer le calice de l'un à l'autre et nous dégustons en une véritable communion.
Voilà, vous avez pu constater que le vin d'Alsace est acquitté de ses charges et que vous avez vraiment des sacrés promoteurs là, en la personne de cet avocat du barreau de Colmar et de ce procureur. Alors, il nous reste deux choses rapides et gigantesques à aborder. La première, la choucroute. Alors, en quelques mots, Françoise Klein, d'abord, avec quel vin il faut l'associer, puis aussi une constatation, peut-être vous pouvez nous expliquer, les choucroutes que nous mangeâmes ici n'étaient pas acides comme celles que nous trouvons à l'ordinaire dans la capitale.
Eh bien déjà, la choucroute, moi je dis, c'est un plat rustique, c'est un plat simple. Alors d'évidence, il faut avoir un vin très simple. Alors je déplore aussi de temps en temps, quand je vais dans des restaurants, hormis Alsace, où souvent on va baser sur des vins simples, où on peut avoir la mauvaise expérience de voir un Gewürztraminer avec une choucroute. C'est un petit peu l'angoisse.
Pendant que vous parlez, je vais encore demander à Daniel Jung de déboucher le nouveau et dernier vin. Pop. Alors, choucroute,
je dirais, pourquoi sont-elles ainsi ailleurs? C'est que simplement, peut-être, on doit les garder un peu trop longtemps et quand elles deviennent un peu, on dit en alsacien, mais on va peut-être me reprendre sur les noms, mais ça, un peu surie, un peu acidulé. Ouais. Là, vous êtes encore en période de cette choucroute nouvelle qui est sortie en septembre-octobre, où on a cette choucroute fraîche. Et je dirais que, bon, il y a une façon peut-être de la renouveler. Je ne connais pas tellement la choucroute, mais effectivement, on les a un petit peu moins acidulées, mais les plus vieilles, enfin celles qu'on a, les dernières qu'on a, et pour peu que certains les gardent encore quelques mois en plus, risquent de vous agresser quelque peu l'intérieur.
Jean-Marie Klein, juste un mot maintenant sur le Gewürzt que vous avez apporté et qui accompagne donc ce Kugloff que nous a offert très gentiment Madame Wolf qui est tout à côté. Si vous voulez acheter votre Kugloff, c'est chez Madame Wolf tout à côté. Alors.
Oui. Ben je refais pas le petit bruit.
Non.
Je décris un petit peu. J'ai déjà en cachette, j'ai déjà dégusté un petit peu là pour me remémorer un peu les arômes. C'est un Gewürz qui est avant tout floral. C'est un Gewürz de granit et qui au palais a, je dirais, la finesse, de l'élégance. Il n'est pas trop collant. Il ira bien avec un gâteau comme le
Kugloff,
ben voilà, vous l'avez dit.
Une photo tout à l'heure d'un groupe qui était devant une église.
Oui.
Et à l'extrême gauche, il y avait un homme sévère avec une moustache. C'était le grand-père.
C'est mon grand-père, oui.
Et il était quoi?
Il était un paysan et il était dans la garde d'honneur du Kaiser, du temps de pendant la guerre, pendant son service militaire.
Garde d'honneur de l'empereur d'Allemagne.
Oui. Dans la garde d'honneur, oui.
C'était un homme sévère.
Non, c'est vers tout juste, quoi, mais il savait ce qu'il voulait, il fallait travailler naturellement. Il aimait tout ce qui était rigoureux. C'était aussi un paysan, donc, il y avait déjà dans le temps, il avait pas mal de chevaux, il faisait le débardage. Il allait toujours chercher sa farine. Alors il disait toujours, il montait sur le cheval avec le blé dessus, et il avait un magnifique cheval blanc. Il allait jusqu'à chez le meunier. Il s'arrêtait dans aucun restaurant, dans aucun bistrot, parce qu'il fallait être à l'heure. Mais en revenant à chaque village, il s'arrêtait. Et le cheval s'arrêtait devant chaque bistrot. Et quand le grand-père en avait assez, il se couchait sur la voiture et le cheval le ramenait ici.
Et ben voilà, c'était le pays d'ici sur la route des vins d'Alsace. Merci bien sûr à Françoise et à Jean-Marie Klein et à Bernard Jantet. Le livre d'Irène de Fonberger, L'Alsace à table, est publié aux éditions du Rhin.
C'était Colmar, les vins, la gastronomie, Noël. Un numéro du Pays d'ici de Stéphane Dalie-Georges, réalisé par Yvon Croisier, diffusé pour la première fois le 9 décembre 1994 sur France Culture.